recherches secrets en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
J'ai relu ses romans, son théâtre, ses articles, ses contes. Et ce qui m'a frappé, c'est leur étonnante modernité. L'encre en est encore frais. Les nouvelles générations, je le sais, le connaissent mal et les critiques font le silence sur lui. Il n'en reste pas moins l'un des plus puissants écrivains du début du siècle. Et tôt ou tard, Octave Mirbeau reprendra son rang.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Vous tous qui nous êtes fidèles, vous savez que cette émission aime à braquer son attention, par intervalle, sur des auteurs du passé qui furent glorieux en leur temps, mais dont le rayonnement tend à s'affaiblir, parfois jusqu'à l'obscurité. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce progressif effacement, mais surtout de considérer ce que, en dépit de celui-ci, le personnage en question peut avoir encore à nous dire. Il s'agit d'évoquer un dialogue entre son époque et la nôtre, en se défendant certes de tout anachronisme, mais en débusquant la permanence des sensibilités, des interrogations sociales et politiques, des influences idéologiques et littéraires. Octave Mirbeau est mort en 1917, mais ce n'est pas cet anniversaire qui m'a donné le goût de l'évoquer ce matin, car ce ressort n'est pas le nôtre. J'ai été sensible au magnifique travail que mon invité Pierre Michel, historien de la littérature et des idées, déploie comme président de la Société des Amis de Mirbeau pour le célébrer, pour perpétuer sa mémoire, pour consolider sa notoriété rajeunie. Avec Pierre Michel, nous allons nous attacher à suivre la trace d'un homme qui, au tournant des 19e et 20e siècles, établit sa célébrité à la rencontre d'une œuvre romanesque et théâtrale à grand succès et d'une activité féconde de journaliste et de critique d'art. Il fut toujours indigné selon des fidélités diverses et par là puissamment créatif et par là jeune encore aujourd'hui, quand bien même s'éloignent les spécificités de ses combats. Voici Octave Mirbeau.
Je voudrais rendre hommage à un homme qui adora la peinture et l'a servi de toute son intelligence et de tout son cœur. Cet homme, c'est Octave Mirbeau et ce fut mon plus grand ami. Loin d'être modéré, Mirbeau ne pouvait en effet dissimuler ni son admiration ni son antipathie. Il en convient quand il s'écrit que devant ceux qui l'impatientent, il se sent pris aussitôt d'une envie folle de les contredire et même de les injurier. « Ils peuvent, écrit-il, ils peuvent soutenir les opinions qui me sont les plus chères. Je m'aperçois aussitôt que ce ne sont plus les miennes, et mes convictions les plus ardentes dans leur bouche, je les déteste. Je ne me contredis pas, je les contredis. Je ne leur mens pas, je m'évertue à les faire mentir. Je me sens en joie, en verve, si je pouvais avoir de la haine, vraiment de la haine, je crois bien que j'aurais, pauvre de moi, du génie. » Il en avait précisément, et il n'avait pas que le génie de l'invective. Jules Renard disait de Mirbeau, « Mirbeau se lève triste et se couche furieux. » Et c'était vrai. Triste, il l'était à son réveil, en pensant aux injustices qui allaient se commettre. Furieux en se couchant, il l'était de ne pas les avoir toutes réparées.
Pierre Michel, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer un hommage rendu par Sacha Guitry. Sacha Guitry à Octave Mirbeau, dans une émission qui s'intitulait « Sans merveilles ». Et qui remonte au 16 août 1954. Je l'ai choisi parce que il me semble que ce propos pose assez bien la force et du personnage, sa capacité de s'indigner toujours et de s'indigner parfois contre lui-même.
Effectivement, l'indignation, je crois, c'est le ressort majeur de l'inspiration d'Octave Mirbeau. C'est ce qui est à l'origine de ses engagements, en même temps que de sa création littéraire et ses combats menés dans la presse de l'époque. L'indignation, mais aussi deux autres facteurs que sont l'admiration, évoquée justement par Sacha Guitry, et le dégoût. Le dégoût pour des quantités de gens qui représentent toute la médiocrité de la bien-pensance, de l'hypocrisie, de l'aliénation, de la bêtise bourgeoise, la bêtise ventrue, la bêtise à front de taureau, que Mirbeau déteste. Et toutes les injustices dont il peut être le témoin, ou qui se passent quelque part dans le monde, ces injustices le blessent. Et il s'indigne, et c'est dans la mesure où il s'indigne qu'il choque. Et qu'il devient dérangeant, parce qu'il nous oblige à regarder en face des choses que nous n'avons pas du tout envie de voir.
C'est toujours certainement utile, mais dans le même temps, lui-même nous dit que cette indignation, elle n'a pas été incompatible avec une certaine inconstance. Il a publié un livre frappant qui s'appelle « Palinodie », le titre est vraiment topique, où il disait, riant un peu de lui-même, où il disait « J'ai donné, je l'avoue, le plus déplorable exemple d'inconsistance qui se puisse voir. » Mais, il ajoutait, « C'est aussi la seule certitude par quoi je sente réellement que je suis resté d'accord avec moi-même. »
Oui, c'est un article intitulé « Palinodie » qu'il a publié dans l'Europe pendant l'affaire Dreyfus, lorsque les antisémites ont ressorti un article qu'il avait publié 15 ans plus tôt dans la revue dont il était le rédacteur en chef, qui s'appelait « Les Grimaces ». Et « Les Grimaces », c'est effectivement, dans la vie de Mirbeau, dans la production de Mirbeau, j'allais dire une tare aujourd'hui. Parce que « Les Grimaces », c'était un organe de presse et qui était par certains côtés comparable au Canard enchaîné, c'est-à-dire révéler des scandales, mais d'un autre côté qui était payé par la Banque Paribas, Edmond Joubert, et qui, dans la concurrence qui opposait les banques françaises à la Banque Rothschild, développait un antisémitisme forcené. Donc Mirbeau d'un côté tenait un langage tout à fait de gauche, révolte contre le système existant, et en même temps un langage antisémite face auquel il a été amené à faire à deux reprises son mea culpa. Tout de suite, un an après les Grimaces, et à nouveau en 98 dans l'article que vous avez cité, qui s'intitule précisément « Palinodie ».
Nous allons y venir, mais est-ce que vous pensez, Pierre Michel, que ces évolutions aient pu contribuer à un certain brouillage de son image, rétrospectivement, au fait que son souvenir a traversé un moment de purgatoire, même si vous considérez, je vous lis bien, que ce purgatoire a cessé vers les années 1990. Vous y avez d'ailleurs largement contribué par la grande biographie que vous avez donnée avec Nivet à ce moment-là.
Effectivement, il y a eu un brouillage de l'image de Mirbeau qui est lié à des tas de raisons. Et une des raisons possibles, c'est le fait que pendant une douzaine d'années, quand il s'est engagé dans la voie de l'écriture et du journalisme, il a vendu sa plume. Il écrit à l'époque, dans Les Grimaces précisément, que le journaliste vend à qui le paye. Dans un roman inachevé et publié après sa mort, qui s'appelle Un gentilhomme, il évoque un personnage inspiré de sa propre expérience, qui devient secrétaire particulier d'un noblio normand, et qui auparavant a servi successivement des maîtres extrêmement différents, et qui s'est adapté absolument à ces maîtres d'orientation et d'idéologie différentes pour produire à leur demande des quantités de textes pour ses employeurs successifs, et il écrit le personnage, qui le personnage narrateur d'un gentilhomme, que ça ne lui faisait ni chaud ni froid, que c'était purement mécanique.
Le personnage a existé, il s'appelait Duguet de la Fauconnerie. Voilà, on a l'impression que c'est un nom tiré d'une comédie.
Pas du tout. Duguet de la Fauconnerie, c'était un député impérialiste de la circonscription de Rémalard-Mortagne dans l'Orne. Il était le client du père de Mirbeau, qui était médecin. Et c'est lui qui a emmené dans ses bagages Mirbeau, le jeune Mirbeau, et qui lui a mis le pied à l'étrier dans l'Ordre de Paris, qui était l'organe du parti bonapartiste, l'appel au peuple. Et à partir de ce moment-là, Mirbeau, pendant 12 ans, il a pratiquement servi ses maîtres successifs.
Et pour comprendre ça, il faut voir qu'il a trouvé là le moyen de s'extraire d'un milieu familial qu'il avait trouvé très étouffant. Rappelez-nous ça, si vous le voulez bien. D'où sort-il cet Octave Mirbeau que vous aimez tant ?
Alors, Octave Mirbeau, il est sorti de l'Orne, d'un bourg de l'Orne qui s'appelle Rémalard. Et il est issu d'une famille de la petite bourgeoisie provinciale, avec des grands-parents des deux côtés qui étaient notaires, un père qui était officier de santé, c'est-à-dire un sous-médecin.
On a l'impression d'être dans Flaubert.
Voilà, exactement comme Charles Bovary. On connaît sa jeunesse essentiellement par ses lettres à son ami Alfred Bansard, petit-fils de médecin comme lui. On se fréquente au sein d'une petite bourgeoisie locale. Et ces lettres, je les ai découvertes et achetées en 67, il y a donc 50 ans. Je les ai publiées déjà deux fois et elles sont extraordinaires.
Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces lettres? Quelle sensibilité en ressort?
Alors, ces lettres révèlent qu'entre 15 et 20 ans, Mirbeau possède déjà une plume absolument remarquable et donc qui a été remarquée notamment par Duguay de la Fauconnerie, l'oubliot voisin donc de Mirbeau. Il est révolté, il est indigné déjà dans sa jeunesse. Et la première lettre de ses lettres de jeunesse remonte à la période, aux quatre années qu'il a passées dans un collège de jésuites à Vannes, le collège Saint-François-Xavier, et il écrit que c'est un enfer. Il y a situé un roman qui s'appelle Sébastien Roch, qu'il publiera en 1890. Et dans ce roman, Mirbeau évoque un sujet qui a été tabou pendant un siècle et dont on parle depuis quelques années seulement, c'est-à-dire les viols d'enfants et d'adolescents des deux sexes par des prêtres. Mais il a écrit ce roman donc longtemps, un quart de siècle après les faits. Et selon toute vraisemblance, le personnage de Sébastien Roch, éponyme, est largement inspiré de sa propre expérience. Il a été chassé du collège dans des conditions tout à fait comparables à celles de Sébastien Roch.
Lesquelles? Parce que tout le monde n'a pas lu Sébastien Roch, en tout cas avant notre émission.
Il a été chassé deux mois avant la fin de l'année scolaire, alors que ses résultats scolaires étaient certes médiocres, d'après ce que nous disent les jésuites, mais il n'y avait aucune raison a priori de le chasser dans l'urgence. Dans Sébastien Roch, le prêtre qui a séduit et violé le jeune homme, qui lui a d'abord révéler les beautés de l'art et de la littérature pour l'amener finalement dans sa chambre. Et toute la vie de Sébastien Roch est détruite par ce viol, et sa sexualité est complètement perturbée, son esprit est également perturbé, et il finit par être tué d'une façon absurde pendant la guerre de 70. Alors Mirbeau, lui, s'en est sorti, alors que son personnage s'en est pas sorti. Parce que visiblement, Mirbeau, il s'est dédoublé. D'un côté, il y a Sébastien Roch, et de l'autre côté, il y a son ami Bolloré, qui est devenu révolutionnaire, et qui finit par tuer d'ailleurs son officier pendant les guerres de 70. Alors Mirbeau était très malheureux dans ce collège des jésuites, et quand il est rentré dans sa famille, il considérait que c'était un autre enfer, l'enfer de l'enfermement, d'un milieu extrêmement restreint, hypocrite, où personne à qui parler, personne qui puisse s'intéresser à des choses concernant la littérature ou l'art. Et il a été extrêmement malheureux et il se défoule dans ses lettres, justement, à Alfred Bansard.
Donc, seconde indignation.
Voilà, une autre indignation face à cet autre enfer social qu'est la misère des paysans du Perche et la bêtise ventrue des petits bourgeois provinciaux.
Donc, seule solution, monter à Paris, comme on disait, c'est le fait d'un certain nombre de littérateurs de l'époque. Ce n'est pas forcément original. Il monte à Paris et c'est là qu'il devient la plume, comme on dirait aujourd'hui, de ce député bonapartiste qui apparemment l'entraîne un peu de ce côté-là après 70, dans les débuts de la Troisième République, du côté du bonapartisme révolutionnaire. Ce ne paraît pas toujours un oxymore à l'époque.
Oui, effectivement, le jeune Mirbeau a à l'égard de Paris le regard de Rastignac et de Madame Bovary. D'un côté, Paris, c'est le lieu de toutes les ambitions possibles, y compris littéraires, et c'est aussi le lieu de toutes les satisfactions des sens. Alors quand il arrive à Paris, effectivement, il travaille au service de son patron, donc Duguay de la Fauconnerie. Et il travaille donc pour les bonapartistes pendant jusqu'en 79. Il emploie cette expression de bonapartisme révolutionnaire en 79 dans un numéro de l'Ariégeois, puisqu'entre-temps il travaillera pendant 6 mois comme chef de cabinet du préfet bonapartiste de l'Ariège. Et cette alliance de mots peut paraître oxymorique, effectivement, vous l'avez dit. Elle ne l'est pas forcément dans son point de vue, parce qu'il insiste dans ses articles de l'époque sur le côté progressiste du bonapartisme par opposition à la République du Jules.
Il n'aime pas les opportunistes qui sont au pouvoir.
Il n'aime pas du tout les opportunistes, et ce mépris, il peut se manifester aussi bien dans le ralliement au bonapartisme à un moment où le bonapartisme n'est plus considéré comme dangereux, alors qu'il était anti-bonapartiste dans ses lettres à Alfred Vansin, il souhaitait même le renversement du régime, il regrettait qu'une manifestation n'ait pas abouti à ce rêve de jeunesse. Donc une fois que le bonapartisme n'est plus effectivement dangereux, qu'il n'y a pas de restauration envisageable, bon, il peut devenir un point de ralliement pour des jeunes qui ont besoin d'un idéal et qui le trouvent dans la légende napoléonienne. Et l'autre façon, bien sûr, celle qui sera définitive pour lui de s'engager, c'est l'anarchisme.
Alors avant d'entrer dans cette période de sa vie, de s'interroger sur l'actualité de ses comportements, je voudrais, après vous avoir fait entendre Sacha Guitry, vous faire écouter un autre témoignage de quelqu'un qu'il a connu. C'est Francis Jourdain, cet artiste peintre, qui était aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui un designer, et qui était le fils de Franck Jourdain, l'architecte. Le père et le fils ont bien connu Octave Mirbeau. Donc, il est, je crois, bienvenu d'entendre son témoignage.
Octave Mirbeau se donnait volontiers pour une sorte de misanthrope que rien ne pouvait plus étonner. Seuls ceux qui ont eu la chance, le vrai, rare bonheur de vivre dans son intimité, savent quelle générosité, quel dévouement habitait cet incurable sentimental transformé par la légende en croque-mitaine. Que cette légende d'un Mirbeau brutal, tonitruant, terrible, soit inepte, j'en ai personnellement eu sans preuve. Mais comment dire la noblesse de cet ardent, la candeur de ce grand cœur, l'affectueuse véhémente et la consolante richesse de ce beau regard clair. Je suis à jamais fier de l'amitié comme témoigna celui qui, m'ayant fait aisément oublier qu'il était de 25 ans mon aîné, se montra tendrement fraternel, plein de sollicitude, capable d'un charmant abandon et de la plus émouvante modestie. Quelle confiance avait inspiré ce tendre matamor, et comme il avait besoin de cette confiance que sa pudeur lui interdisait de réclamer. Si la soif d'amitié est une faiblesse, si la dissimulation de cette soif en est une autre, Mirbeau était un faible. Je l'aimais d'être un homme et non pas un surhomme. Chacune de ses faiblesses me le faisait mieux chérir. Elles étaient sa force et comme sa vertu. Bourru bienfaisant, a-t-on dit. Bienfaisant, certes oui, et réconfortant, mais bien plus révolté que bourru. Il refusait le nom de bonté à cette espèce de veulerie qui compose avec l'infamie, excuse l'injustice, se soumet. Il était furieusement bon et croyait servir la justice. Mais le vent de sa colère avivait une flamme, la flamme de la passion. Elle éclaira et réchauffa bien les cœurs, et les bêtes féroces ayant peur du feu, aucun chacal n'osait l'approcher de trop près.
Cette archive, ces souvenirs exprimés par Francis Jourdain, le texte est lu par lui-même, remonte à juin 1947. Pierre-Michel, vous y retrouvez votre très cher Octave Mirbeau ?
Tout à fait. Francis Jourdain était un jeune artiste et un engagé. Il était pendant longtemps, il sera pendant longtemps un pilier du Parti communiste. Et ça aurait été peut-être une opposition probablement avec Mirbeau, qui lui était toujours resté libertaire. Mais Francis Jourdain faisait partie de ceux qui ont entouré Mirbeau pendant les 10 dernières années de sa vie et qui le considéraient comme un maître, alors que lui ne se considérait pas du tout comme dans la position d'un maître par opposition à des disciples. Francis Jourdain était avec Léon Werth, Georges Besson, Georges Pioche, donc un des grands admirateurs, et Sacha Guitry aussi, de Mirbeau dans les 10 dernières années de sa vie, à un moment où il était le plus souvent isolé dans sa maison par la maladie, par l'éloignement de Paris, par le vieillissement également. Alors, Francis Jourdain insiste beaucoup sur un aspect qui me semble important, c'est le fait que Mirbeau n'est pas du tout et ne s'est jamais présenté comme un modèle, comme un surhomme. C'est un homme, un semblable, un frère, parce qu'il est comme nous, avec ses passions, avec ses dégoûts, avec ses faiblesses, avec ses contradictions, qu'il assume. Mirbeau est un des rares à reconnaître des erreurs quand il a évolué, qu'il a reconnu qu'il avait mal dit du mal de gens en toute ignorance de cause, sans les connaître personnellement. Et puis quand il les a découverts, il a découvert que les hommes valaient peut-être mieux que ce qu'il en avait dit également.
C'est donc, ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Sacha Guitry, il finissait par s'indigner aussi contre lui-même. Il est possible que son actualité ne soit pas affaiblie par ces observations que vous nous proposez, Pierre-Michel.
Mais tout à fait, parce que cette capacité à reconnaître ses torts et à plaider, d'une certaine façon, contre lui-même, fait partie de sa modernité. Il ne prétend pas du tout avoir la vérité avec un grand V. Dans l'affaire Dreyfus, bien sûr, il se battra pour la justice et la vérité, on mettra des majuscules, mais il sait très bien qu'en réalité, on ne saura pas la vérité avec un V majuscule, mais on sait très bien, par exemple, où est le mensonge. On ne sait pas forcément où est la justice absolue avec un J majuscule, mais on sait très bien où sont les injustices. Et ce sont ces injustices et ces mensonges qui méritent qu'on se révolte. Alors il y a bien sûr des tas de compromis qu'on peut être amené à faire, il y a des tas de contradictions dans l'homme lui-même, ce qu'évoquait aussi Sacha Guitry, quand il retrouve ses propres propos, ses propres admirations dans la bouche de quelqu'un qui méprise, bah du coup, ça lui donne plus envie de les partager avec ces gens qu'il déteste.
C'est aussi le moment où Mirbeau s'installe dans une situation à Paris de journaliste et d'écrivain qui est salué un peu partout. Mallarmé, le grand Mallarmé, devient son ami. Il écrit régulièrement par vous, l'honneur de la presse est sauf. Style Mallarmé. Et Rémy de Gourmont écrit vous êtes le chef des justes par qui sera sauvé la presse maudite. Et Goncourt, c'est à l'heure actuelle le seul valeureux dans les lettres, le seul prêt à compromettre un peu de la tranquillité de son esprit, le seul prêt à donner un coup de torchon. Un coup de torchon dans la société et aussi dans les journaux, bien qu'il y écrive et qu'il y soit d'ailleurs bien rétribué. La presse, il est un de ceux qui a le plus dénoncé la presse vénale de son temps, qui portait des propos qui étaient inspirés par des raisons cachées, qui a été stipendié dans bien des cas par un argent trouble.
Effectivement, après les 12 années que j'évoquais tout à l'heure où il a prostitué sa plume, où il a vendu sa plume, Mirbeau en a éprouvé, et surtout à cause de l'antisémitisme des grimaces, un profond sentiment de culpabilité. Et il a entamé ce que j'ai appelé sa rédemption. Et le terme n'est pas anodin, parce qu'il est marqué par l'éducation chrétienne qu'il a reçue, même s'il a complètement rompu, bien sûr, avec toute espèce de croyance religieuse. Il reste ce qu'il appelle à lui-même l'empreinte. Donc, et la culpabilité en fait partie. Et pour se racheter, il dispose d'un instrument qui est sa plume. Et cette plume, c'est aussi une arme au service de ses propres combats. Combats esthétiques, combats littéraires, combats sociaux, combats politiques ou combats éthiques d'une façon générale. Et donc, si Mallarmé, Gourmont, Goncourt et d'autres reconnaissent ce rôle dans la presse, c'est justement parce que il a refusé de se soumettre à ses employeurs successifs, des dirigeants des journaux. Les journaux, on sait qu'ils appartenaient, vous venez de le dire, aux puissances d'argent le plus souvent, mais Mirbeau a réussi à établir petit à petit un rapport de force avec les dirigeants des journaux, les rédacteurs en chef ou les propriétaires, qui faisait qu'il ne pouvait plus se passer de sa propre plume parce qu'elle se vendait bien. Parce que le jour où le journal, par exemple, qui tira 1 million d'exemplaires, publié les articles de Mirbeau, on dit qu'il y avait 10 ou 20% de ventes supplémentaires ce jour-là.
Il a publié dans toute sa vie probablement 1500 articles, vous avez relevé
le nombre. À peu près, mais sans doute plus, parce qu'il y en a un grand nombre qui, au début de sa carrière, quand il a travaillé pour les autres, a été publié sous un pseudonyme ou était anonyme. Donc, c'est pas facile de connaître exactement le nombre.
Il considère que la presse n'est pas seulement vénale, qu'elle est futile et qu'elle est conservatrice. Et comme c'est le moment de son anarchisme, évidemment, c'est particulièrement répréhensible à ses yeux.
La presse est considérée que par Mirbeau comme un instrument de crétinisation. Au même titre que le théâtre de son époque, au même titre que la littérature majoritaire dans son temps, au même titre, bien sûr, que sur un autre plan, les religions, le culte de la patrie, etc. Donc tous ces moyens-là sont destinés, d'après lui, à remplacer le potentiel Mozart qui sommeille chez tout enfant en ce qu'il appelle une croupissante larve. Il s'agit de détruire toutes les potentialités d'esprit critique, de créativité que porte l'enfant pour remplacer cette intelligence par des réflexes conditionnés, par la soumission à l'ordre en place, à l'ordre incarné par le père dans la famille, par le prof à l'école, par le colonel dans l'armée, par le président du conseil dans le gouvernement.
Il n'est pas le seul dans sa génération. Votre admiration ne peut pas s'exalter au point de nous le dire, Pierre Michel. À critiquer le bourgeois, c'est presque un passage obligé pour beaucoup des écrivains. Néanmoins, il met dans cette dénonciation de Monsieur Homais, de Joseph Prud'homme, une verve et une efficacité dont témoigne ce texte que je vais vous faire entendre. C'est une émission de Philippe Soupeau, tel qu'en eux-mêmes, le grand Philippe Soupeau, tel qu'en eux-mêmes, dans France Culture, le 23 mai 1971. C'est un extrait de l'épidémie. Peut-être pouvez-vous nous rappeler auparavant ce qu'était l'épidémie.
En 1888, Mirbeau habitait à Auré, pas loin de Lorient, donc dans le Morbihan, et il a été envoyé en reportage par le Figaro. C'est l'année où il a écrit dans le Figaro la fameuse grève des électeurs, un appel donc aux électeurs pour qu'ils n'aillent pas voter.
Sur ce point, nous passerons ce samedi avec pudeur. Et ensuite
donc, il a été envoyé en reportage à Lorient parce qu'il y avait une épidémie de typhoïde. Et il a écrit un article dans le Figaro intitulé « Au pays de la fièvre », ce qui a fait scandale parce qu'il y dénonçait l'incapacité des notables municipaux à lutter contre l'épidémie. Et la seule façon dont les édiles locaux voyaient la lutte contre l'épidémie, c'était de faire des processions. La vision qu'en a donnée Mirbeau dans cet article du Figaro a été corroborée par des enquêtes qui ont été menées par un universitaire de Lorient dans les archives municipales, dans les rapports des médecins sur les épidémies de typhoïdes régulières qui revenaient régulièrement à Lorient. Alors Mirbeau en a tiré un première adaptation sous forme de dialogue, et il en a tiré ensuite une farce qui s'appelle l'épidémie et qui a été représentée en 98 pendant l'affaire Dreyfus.
Donc, eh bien, c'est le maire qui apprend pour sa désolation, pour sa douleur intime devant son conseil municipal, qui apprend qu'un bourgeois vient de mourir du fait de l'épidémie. Écoutons-le.
Messieurs, il y a un malheur dans cette lettre. Ouvrez-la. Je n'ose l'ouvrir. Allons. Oh mon Dieu, silence. Messieurs, une nouvelle incroyable, affreuse. Oui. Foudroyante.
Parlez, parlez donc.
Parlez.
Messieurs, un bourgeois est mort. Oh, qu'est-ce que vous dites? Un bourgeois est mort, emporté par l'épidémie. Nous ignorons son nom. Qu'importe. Nous connaissons son âme. Messieurs, c'était un bourgeois vénérable, gras, rose, heureux. Son ventre faisait envie aux pauvres. Chaque jour, à heure fixe, il se promenait souriant sur le cour. Et sa face réjouie, son triple menton, ses mains potelées, étaient pour chacun de nous un vivant enseignement social. Il semblait qu'il ne dût jamais mourir. Et pourtant, il est mort. Un bourgeois est mort. Il ne m'appartient pas, messieurs, de juger la vie du bourgeois admirable, fraternel, que nous pleurons tous. D'autres, plus autorisés que moi, lui rendront ce mérité et suprême hommage. Messieurs, si le bourgeois dont nous déplorons la perte tragique et prématurée ne se signala jamais à la reconnaissance de ses compatriotes et de la ville que, grâce à votre confiance, j'ai l'honneur d'administrer, par des libéralités matérielles, des actes directs de bienfaisance, ou par l'éclat d'une intelligence supérieure et l'utilité d'une coopération quelconque au développement de notre vie municipale, qu'il me soit permis néanmoins, et je crois être l'interprète des sentiments unanimes de notre chère population, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre à la mémoire du bourgeois inconnu et si cher la justice qui lui est due.
C'est un type de théâtre que le théâtre naturaliste de l'époque, Ligné-Pau, Antoine, n'était pas très, très prêt à accepter, mais qui a eu beaucoup de succès et qui en a encore aujourd'hui, Pierre-Michel.
Oui, l'épidémie a beaucoup de succès. On vient de le donner à Paris, à Triel, en Normandie avec Bernard Martin, à Angers avec Virginie Brochard. Et il y a deux projets également dans le Finistère avec François Silvos, qui a fait une intervention sur l'épidémie précisément au colloque Mirbeau du Sénat, le 27 janvier dernier. Donc ça marche très bien. Cet éloge paradoxal du bourgeois nous fait pénétrer, je crois, au cœur des procédés utilisés par Mirbeau pour démystifier.
Démystifier le spectateur
et
démythifier le bourgeois.
Et démythifier par la même occasion. Parce qu'il considère qu'on vit dans une société où on nous inculque depuis notre putain d'enfance des préjugés, des idées toutes faites, des respects abusifs pour les gens de pouvoir, pour le père, pour le prof, pour le prêtre, pour le patron, pour le chef du gouvernement, le ministre, le député, j'en passe et des meilleurs. Et cette respectabilité, eh bien, il faut la casser. Parce qu'à partir du moment où on considère que ces gens sont respectables, eh bien, on les respecte et donc on ne les combat plus et on ne les critique même plus, on n'a plus conscience des ignominies et des turpitudes en tout genre dont ils peuvent se rendre responsables.
Donc le retournement, procédé voilà. Par retournement, ouais. En poussant jusqu'à l'absurde, c'est ça?
Voilà. Et l'éloge paradoxal, c'est faire a priori laisser faire l'éloge de quelque chose qui, a priori, est considéré comme repoussant, monstrueux, contraire à nos habitudes, parce que du coup, ça oblige le spectateur ou le lecteur à réagir. Par exemple, l'éloge du cannibalisme, l'éloge paradoxal du cannibalisme dans le Jardin des Supplices.
Et dans sa lutte contre le colonialisme, il évoque aussi la fabrication de lampes ou de sacs à partir de la peau des nègres, comme
on
dit à l'époque.
Je vais parler le général Archinard. L'interview, c'est une interview imaginaire du général Archinard qui se vantait de coloniser en tuant. La seule façon de civiliser, c'est de massacrer.
Alors il y a évidemment le grand événement qui s'inscrit directement dans cette ligne, le refus des autorités pour la défense d'une idée de la vérité et de la justice, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus où Octave Mirbeau se porte au premier rang des combattants.
Mirbeau est un des tout premiers à se lancer dans la bagarre pour la vérité et la justice dès la fin du mois de novembre 97. Quand je dis des tout premiers, je parle de la partie, disons, publique, de la grande bataille qui s'engage à l'automne 97.
Donc avant même la fameuse lettre de janvier 98 de Zola.
Deux jours après le premier article de Zola. Mais effectivement, ça fait un mois et demi avant
J'accuse.
À propos de J'accuse, je dois dire que c'est Mirbeau qui a payé de sa poche les 7 555 francs 25 de l'amende de Zola grossie des frais de procès. Le 8 août 1898, il est allé à Versailles et il a sorti cet argent de sa poche.
Sans même faire une collecte
générale. Non, c'est lui qui a payé, il n'a jamais été remboursé, bien entendu. Il y a une autre amende de Zola à laquelle il a été condamné pour diffamation à l'égard des prétendus experts graphologues. Il avait été condamné à 30 000 francs d'amende plus les frais de procès. Mirbeau a trouvé 40 000 francs pour payer cette somme, mais il n'a pas sorti de sa poche, il est allé les réclamer à Joseph Reynac. Et Joseph Reynac, il l'avait auparavant combattu et insulté. Et il a fait amende honorable. Mais il l'avait combattu en tant qu'opportuniste et lié à Gambetta et à toute la bande des politiciens qui n'avaient pas cessé de combattre depuis 15 ans. Mais il l'a fait amende honorable publiquement, il a rendu hommage à Joseph Reynac et c'est Joseph Reynac, quand il a reçu Mirbeau, qui lui a donné de la main à la main 40 000 francs, une somme absolument colossale, pour payer les amendes de Zola et éviter que son mobilier ne soit mis en vente.
Donc à côté de Jaurès, à côté de Clémenceau, à côté d'Émile Zola, Octave Mirbeau figure en bonne place dans ce combat des Dreyfusards.
Absolument, et il a participé à toutes sortes de meetings, mais son activité principale, ça a été bien sûr la plume, c'est son arme. Et il a collaboré donc pendant un an à l'Aurore, qui était l'organe des Dreyfusards, dont Clémenceau était le directeur politique. Et dès ses deux premières contributions en août 1898, il lance ce qui va être le fond, j'allais dire, de son intervention dans l'affaire Dreyfus, son objectif à réaliser, c'est-à-dire l'entente entre, d'un côté, les intellectuels au sens large, et de l'autre, les prolétaires. Le premier article paraît dans l'horreur du 2 août 98.
Vous nous le lisez ?
Je vous le lis. Est-ce que de tous les points de la France, professeurs, philosophes, savants, écrivains, artistes, tous ceux en qui est la vérité ne vont pas enfin libérer leur âme du poids affreux qui l'opprime ? Est-ce qu'ils peuvent continuer à vivre dans cette angoisse perpétuelle, dans ce remords, dans ce cauchemar de n'oser pas crier leur certitude et confesser leur foi ? Et devant ces défis quotidiens portés à leur génie, à leur humanité, à leur esprit de justice, à leur courage, ne vont-ils pas enfin comprendre qu'ils ont un grand devoir, celui de défendre le patrimoine d'idées, de sciences, de découvertes glorieuses, de beauté dont ils ont enrichi le pays, dont ils ont la garde et dont ils savent pourtant bien ce qu'il en reste quand les hordes barbares ont passé quelque part.
On peut bien dire que à cet égard, ce texte résonne dans notre actualité de façon assez opportune.
Effectivement, les intellectuels, ce sont ceux qui défendent la liberté de penser, la liberté de créer, la liberté de la presse, la liberté de chercher, face à tous les... On pense bien sûr aux États-Unis, la fronde de tous les scientifiques face au nouveau maître du monde. Bon, c'est tout à fait d'actualité.
Contre Trump.
Et alors, d'un côté, il y a les prolétaires. Et les prolétaires, à l'époque, ils hésitent à s'engager. Dreyfus est un officier, donc qui est susceptible de les mitrailler comme à Fourmis ou comme au dénouement des Mauvais Bergers, la pièce de Mirbeau. Parce que Dreyfus est riche, il appartient à une famille industrielle. On pourrait ajouter que l'antisémitisme a laissé à gauche et à l'extrême gauche beaucoup de traces et que Dreyfus, bien sûr, est juif et à ce titre-là, il n'est pas a priori forcément bien vu des prolétaires. Jules Gued y met son veto quasiment. Les anarchistes également sont a priori peu motivés. Pendant longtemps, Pouget dit même combat anti-Dreyfusard, Dreyfusard, il les renvoie dos à dos, et Mirbeau pas du tout.
Ni Jaurès, l'opposition Jaurès-Gued.
Voilà, Mirbeau se rallie à Jaurès, et justement dans cet article qui s'intitule « À un prolétaire », Mirbeau cite Jaurès, qui va commencer à publier ses preuves dans la Petite République, il l'appelle la grande parole. Et alors, Mirbeau écrit au prolétaire « L'injustice qui frappe un être vivant, fut-il ton ennemi ?» te frappe du même coup. Par elle, l'humanité est lésée en vous deux. Tu dois en poursuivre la réparation sans relâche, l'imposer par ta volonté, et si on te la refuse, l'arracher par la force au besoin. En le défendant, celui qu'opprime toutes les forces brutales, toutes les passions d'une société déclinante, c'est toi que tu défends en lui, ce sont les tiens, c'est ton droit à la liberté et à la vie, si précairement conquis, au prix de combien de sang ? Il n'est donc pas bon que tu te désintéresses d'un abominable conflit où c'est la justice, où c'est la liberté, où c'est la vie qui sont en jeu et qu'on égorge ignominieusement dans un autre. Demain, c'est en toi qu'on les égorgera une fois de plus.
Et c'est un moment où Octave Mirbeau, si différent de Jaurès par son pessimisme, rejoint au fond cette conviction de Jaurès selon laquelle l'amour de l'humanité conditionnera la naissance d'une nouvelle société.
Tout à fait. Et Mirbeau s'est réconcilié avec Jaurès car dans les années précédentes, il avait critiqué Jaurès sous prétexte que le collectivisme auquel Jaurès était supposé s'être rallié annonçait ce qu'on appellera par la suite le stalinisme. Mirbeau écrit en 1895 ce que sera une société un jour collectiviste si un jour elle a le malheur d'être installée, et on a l'impression qu'il décrit l'URSS des années 30. C'est absolument hallucinant.
L'imprécateur rejoint le chantre d'une humanité réconciliée, voilà, qu'est Jaurès.
Voilà. Et ils vont faire en 1908 un voyage en commun, en voiture, pour admirer une toile de Rembrandt conservé au musée d'Épinal. Mais l'on ne saura jamais ce que Mirbeau et Jaurès se sont dit dans la 628-8 de Mirbeau.
Mais puisque nous parlons de cette visite dans un musée qui vous laisse si frustré, Pierre-Michel, de ne pas savoir ce qui s'y est dit, je voudrais que ça nous conduise vers un autre aspect de la modernité de Mirbeau, c'est-à-dire son goût de l'art et sa capacité d'aller distinguer par-delà l'académisme dominant ce que seront les grands peintres de la suite, et notamment tous les grands, Pissarro, Monet, Manet, et Van Gogh et également Gauguin. Écoutez ce qu'il écrit dans un article de l'Écho de Paris le 16 février 1891 sur le fameux Christ jaune de Gauguin. C'est un extrait de l'émission Profil perdu du 12 décembre 1991.
Dans la campagne toute jaune, d'un jaune agonisant, en haut du coteau breton, qu'une fin d'automne tristement jaunie, en plein ciel, un calvaire s'élève. Un calvaire de bois mal équarri, pourri, disjoint, qui étend dans l'air ses bras gauches. Le Christ, tel une divinité papou, sommairement taillé dans un tronc d'arbre par un artiste local, le Christ piteux et barbare est peinturluré de jaune. Au pied du calvaire, des paysannes se sont agenouillées, indifférentes, le corps affaissé pesamment sur la terre. Elles sont venues là parce que c'est la coutume de venir là un jour de pardon. Mais leurs yeux et leurs lèvres sont vides de prière. Elles n'ont pas une pensée, pas un regard pour l'image de celui qui mourut de les aimer. Déjà enjambant des haies et fuyant sous les pommiers rouges, d'autres paysannes se hâtent vers leur bauge, heureuses d'avoir fini leur dévotion. Et la mélancolie de ce Christ de bois est indicible. Sa tête a d'affreuses tristesses. Sa chair maigre a comme des regrets de la torture ancienne. Et il semble se dire, en voyant à ses pieds cette humanité misérable et qui ne comprend pas, « Et pourtant, si mon martyre avait été inutile ?» Il y a dans cette œuvre un mélange inquiétant et savoureux de splendeur barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, d'imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil. Il y a des réalités âpres et des vols éperdus de poésie par où M. Gauguin crée un art absolument personnel et tout nouveau, art de peintre et de poète, d'apôtre et de démon, et qui angoisse.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
L'art de M. Gauguin, la lecture est de Jean-Luc de Batisse. Dans la littérature de commentaires, de descriptions de l'art, il me semble que ce texte figure très haut, non?
Alors Mirbeau fait partie en effet de ceux qui ont le plus contribué à la reconnaissance à l'époque d'une part et surtout dans la postérité des grands artistes créateurs de son temps.
Par quoi il est très moderne aujourd'hui?
Il est le chantre attitré donc de ses deux plus grands amis, ses dieux, il les appelle des dieux, qui sont Auguste Rodin et Claude Monet. Il est le grand ami de Camille Pissarro.
Camille Claudel aussi.
Il est celui qui a proclamé à trois reprises le génie. Il emploie le terme de génie à propos de Camille Claudel. Et il s'est battu également pour Félix Vallotton. Vous avez cité donc Gauguin. Grâce à ces deux articles de Mirbeau parus en février 91, Gauguin a pu vendre ses toiles suffisamment chères pour pouvoir se payer le voyage à Tahiti, grâce à Mirbeau, et il en est bien sûr extrêmement, extrêmement reconnaissant. Rodin écrit à Mirbeau en 1910, « Vous avez tout fait dans ma vie, et vous en avez fait le succès. » Et justement, c'est très intéressant de voir que, dans la période de purgatoire que Mirbeau a traversée pendant un demi-siècle après sa mort, une fois qu'il n'était plus là pour faire trembler personne, et qu'on a pu se venger de lui, les élites, les nantis, les bien-pensants, les académistes, j'en passe et des meilleurs, eh bien, les historiens de l'art ont été les premiers à reconnaître son importance. Parce que tous les historiens de l'art qui ont travaillé sur Van Gogh, sur Monet, sur Pissarro, sur Rodin, Mayol, etc., Camille Claudel, eh bien, ils ont rencontré Mirbeau. Ils ont rencontré la correspondance, ils ont rencontré surtout ses articles. Et ils ont su que Mirbeau avait contribué à leur reconnaissance. Il y a un signe de cette reconnaissance qui apparaît dans le prix des toiles.
Il achète 250 francs une toile de Van Gogh.
Il a payé effectivement 300 francs de l'époque, deux toiles chacune. Donc les iris et les tournesols qui ont été revendus en 1987, à l'époque c'était le record du monde, 54 milliards d'anciens francs, 540 millions de francs de l'époque.
Il partage cet amour de Monet avec Georges Clemenceau. Vous venez de rédiger un article pour le premier volume de l'année Clemenceau, qui va paraître à l'automne, sur leur amitié, qui peut apparaître paradoxal, c'est votre titre, mais qui, considéré en profondeur, l'est beaucoup moins.
Ben tout à fait. Et l'un des liens qui existent entre Mirbeau et Clemenceau, il y a l'affaire Dreyfus, bien entendu, il y a la création littéraire, les aspirations littéraires de Clemenceau et son originalité, son énergie, etc., en tant qu'homme engagé dans l'histoire. Et puis, il y a aussi l'amitié profonde qu'il a liée et l'admiration profonde qu'il partage avec Mirbeau pour Claude Monet. Et Clemenceau sera fidèle à Claude Monet toute sa vie, alors que Mirbeau l'accuse d'avoir, au contraire, trahi un certain nombre de ses engagements datant de l'affaire Dreyfus ou antérieure.
Ça, nous n'entrerons pas aujourd'hui dans cette controverse, si vous le voulez bien.
Mais par contre, pour Monet, il est resté fidèle jusqu'au bout. Il a contribué à l'achat des Nymphéas, etc. Bon.
Il y a un autre volet de la modernité d'Octave Mirbeau, Pierre Michel, à nos yeux d'aujourd'hui, c'est ce que l'on peut appeler son activité d'écologiste avant la lettre. Notamment, cela m'a frappé, ce combat en 1889 contre la dénaturation du Cap Martin.
Mirbeau, d'une certaine façon, il est un ancêtre de l'écologie.
Elle rend quoi ?
Il défendait la nature contre ceux qui, au nom du progrès ou de la science, entendaient la dénaturer, la détruire, ou carrément la condamner.
L'argent corrupteur, là encore.
L'argent corrupteur, mais il y a aussi l'hubris des ingénieurs. Mirbeau dit, les ingénieurs, ils vont détruire le monde. Alors, tout ça au nom du progrès, bien entendu. Donc, le progrès, c'est ce qui fait passer la pilule, en disant, c'est au nom du progrès, et on détruit en réalité la nature, etc. Mirbeau a dénoncé, a écrit une série d'articles sur la pollution des nappes phréatiques dans la banlieue parisienne à cause des égouts de Parisiens, dans la région où il habitait, du côté de Poissy. Et un siècle après, il y a encore des restes, et les écolos en quartier d'aujourd'hui continuent de mener le combat que Mirbeau menait en 1900.
Voilà une concordance des temps.
Ah, c'est tout à fait étonnant.
Oui, je ne m'y connais pas, mais je m'y connais assez bien. Oui. Cet amour de la nature, il va jusqu'à écrire à Claude Monet qui aurait pu éventuellement en être froissé, il n'y a que la terre. Moi, j'en arrive à trouver une motte de terre admirable et je reste des heures entières en contemplation devant elle. Et le terreau, j'aime le terreau comme une femme et les belles couleurs qui naîtront de là, comme l'art est petit à côté de ça. Je ne sais pas comment Monet a réagi. Et comme l'art est grimaçant et faux. Fin de citation.
Oui, ça fait partie des contradictions de Mirbeau. En même temps qu'il chante les grands artistes créateurs, il sait très bien aussi que l'art peut très bien n'être qu'une fuite ou qu'une, ce qu'il appelle dans Le Ciel, un roman inspiré de Van Gogh, désertion du devoir social. Mais Monet était un passionné de jardinage et une bonne partie de la correspondance entre Mirbeau et Monet est consacrée au jardinage et non pas à la peinture ou à la littérature.
Je voudrais que nous terminions notre conversation, Pierre Michel, en évoquant Mirbeau, homme de lettres. Je veux dire Mirbeau, romancier. Et en d'autres termes, Mirbeau, dynamiteur, vous l'avez écrit, d'un genre romanesque traditionnel. Il y a cette manière qu'il a eue de faire d'une automobile, par exemple, l'héroïne d'un de ses romans, 628 E8. On peut lire encore ce livre, ou bien de Dingo, d'un chien. Il retourne les choses. Et puis il y a l'admirable journal d'une femme de chambre qui a inspiré le film célébrissime de Buñuel, journal d'une femme de chambre dont je crois à la fois nécessaire, légitime et fructueux de vous faire entendre un extrait.
Figurez-vous un petit vieux tiré à quatre épingles, rasé de frais et tout rose ainsi qu'une poupée. Très droit, très vif, très ragoûtant, ma foi. Il sautillait en marchant comme une petite sauterelle dans les prairies. Il me salua avec infiniment de politesse.
Comment vous appelez-vous, mon enfant ?
Célestine, monsieur.
Célestine. Célestine. Diable, joli nom, je ne prétends pas le contraire, mais trop long, mon enfant, beaucoup trop long. Je vous appellerai Marie, si vous le voulez bien. C'est très gentil aussi, et c'est très court. Et puis, toutes mes femmes de chambre, je les ai appelées Marie. C'est une habitude à laquelle je tiens. Je préférerais renoncer à la personne.
Ils ont tous cette bizarre manie de ne jamais vous appeler par votre nom véritable. Je ne m'étonnais pas trop, moi qui l'on a déjà donné tous les noms de toutes les scènes du calendrier.
Alors, cela ne vous déplaît pas que je vous appelle Marie, c'est bien entendu?
Mais oui, monsieur.
Jolie fille, bon caractère. Bien.
Il m'avait dit cela d'un air enjoué, extrêmement respectueux et sans me dévisager. Sans fouiller d'un regard déshabilleur mon corsage, mes jupes, comme le font d'habitude les hommes. À peine s'il m'avait regardé. Depuis le moment où il était entré dans le salon, ses yeux restaient obstinément fixés sur mes bottines.
Comprenez-moi, mon enfant, je suis un peu maniaque. À mon âge, cela est permis, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, je ne trouve pas convenable qu'une femme cire ses bottines. À plus forte raison, les miennes. Je respecte beaucoup les femmes, Marie, et ne peux souffrir cela. C'est moi qui les curerai, vos bottines. Vos petites bottines. Vos chères petites bottines. C'est moi qui les entretiendrai.
4 jours après, le matin, à l'heure habituelle, en allant ouvrir les fenêtres, je faillis m'évanouir d'horreur. Monsieur était mort. Étendu sur le dos au milieu du lit, le corps presque entièrement nu, on sentait déjà en lui et sur lui la rigidité du cadavre. Il ne s'était point débattu. Sur les couvertures, nul désordre. Sur les draps, pas la moindre trace de lutte, de soubresaut, d'agonie, de mains crispées qui cherchent à étrangler la mort. Et j'aurais cru qu'il dormait, si son visage n'eût été violet, violet affreusement de ce violet qu'ont les aubergines. Spectacle terrifiant qui, plus encore que ce visage, me secouait d'épouvante. Monsieur tenait, serré entre ses dents, une de mes bottines, si durement serrée dans ses dents qu'après d'inutiles et horribles efforts, je fus obligée d'en couper le cuir avec un rasoir. Pour la lui arracher.
Cet extrait du journal d'une femme de chambre est lu par Marie-Claire Achard et par Pierre-Olivier dans l'émission Telle qu'en eux-mêmes, France Culture, le 23 mai 1971. Je trouve que ce ramasse se concentre dans ce texte beaucoup des traits de Mirbeau, romancier. Pierre Michel.
Le journal d'une femme de chambre, c'est le roman le plus célèbre de Mirbeau, qui a fait de l'ombre un petit peu au reste de sa production romanesque.
Vous le regrettez ?
Mais en même temps, c'est aussi peut-être celui qui témoigne le plus de sa volonté de transformer la littérature et en général et le genre romanesque en particulier. Le fait de donner la parole à une femme de chambre en soi, c'est déjà subversif. C'est subversif parce que ça permet de faire de la femme de chambre un être humain, cultivé et capable d'écrire à part entière.
Jeanne Moreau dans le film.
Voilà. Et c'est en soi révolutionnaire. Et d'autre part, Mirbeau, ayant pour but de faire de la littérature un moyen de démythifier, de désacraliser toutes les valeurs consacrées, utilise la femme de chambre, comme dans d'autres textes, il utilise la prostituée ou le mendiant, le cheminot, le marginal, pour nous faire découvrir l'envers du décor, ou les coulisses du Theatrum Mundi. La vie sociale n'est qu'un théâtre, les bourgeois sont des acteurs, en général mauvais, mais qu'on ne perçoit que dans leurs prestations sur la scène, et la femme de chambre, elle est dans les coulisses, elle les voit à nu. Et ce sont ces turpitudes camouflées de la classe dominante que Célestine, la femme de chambre, nous oblige à voir. C'est le point de vue différent qui nous est donné sur les classes dominantes.
On peut ajouter que sur la situation de la femme dans la société contemporaine, Octave Mirbeau apparaît comme prémonitoire aussi dans ses combats. Je pense à son combat en faveur de la liberté d'avortement, incroyablement moderne.
Tout à fait. Dès 1890, Mirbeau écrit un dialogue qui s'appelle Consultation, où il met en scène un personnage du beau monde dont la maîtresse est enceinte alors qu'elle est mariée, etc. Donc il recourt à un ancien ami, médecin, etc., qui fait des grands discours contre l'avortement, et il lui demande de lui rendre un petit service, c'est-à-dire de faire avorter sa maîtresse. Et tous les deux se livrent à un éloge de l'avortement qu'officiellement ils se sont supposés combattre. Et le médecin dit que l'avortement est un droit de l'humanité qui donc, en tant que tel, doit être imprescriptible et sans limite. Et le client, le patient, dit il doit y avoir la liberté de l'avortement exactement comme il y a la liberté de la presse, la liberté de penser, la liberté de culte, etc. C'est absolument hallucinant. En 1890 et en 1900, Mirbeau mène dans la campagne, dans les colonnes du journal, dans 6 articles intitulés « Dépopulation » pour dénoncer la politique nataliste menée par les gouvernements en place et qui vise à avoir à la fois beaucoup de main-d'œuvre pour l'industrie et surtout beaucoup de petits soldats pour la prochaine boucherie.
Donc les racines de son action, ce n'est pas seulement le désir de conférer à la femme une certaine liberté par rapport à son corps, c'est aussi une sorte de néo-malthusianisme qui s'organise autour d'une doctrine plus large.
Tout à fait. À partir du moment où on condamne à vivre des êtres humains qui ne l'ont rien demandé et à qui on n'offre pas des conditions matérielles et culturelles, sociales suffisantes, dignes de l'humanité, à ce moment-là, c'est un crime que l'on commet en les condamnant à une vie soumise à ce que Mirbeau appelle la loi du meurtre.
On est, il faut le dire, en plein cœur de la seconde révolution industrielle qui opprime les classes prolétaires dont on a tendance parfois à oublier la dureté. Je voudrais que nous finissions par l'évocation d'un événement final, je veux dire le faux testament d'Octave Mirbeau, qui renvoie assez directement d'ailleurs au livre de Roger Martin Dugard, auquel j'avais consacré une émission semblable à celle-ci ce matin, Jean Barrois, le roman de Jean Barrois, où on voit le grand combattant de l'affaire Dreyfus, qui a pris ses distances par rapport à l'Église, être au moment de sa mort rattrapé par celle-ci, et sa femme, très pieuse, jette dans le feu, c'est la fin du roman, le testament où Jean Barrois explique que, en pleine connaissance des choses et en pleine conscience, en pleine possession de ses facultés, il n'a pas voulu recevoir les derniers sacrements. Et il y a une similitude avec ce qui arrive pour Octave Mirbeau.
Tout à fait. Cette affaire du faux testament a contribué à empêcher des générations de lecteurs de comprendre qui était véritablement Mirbeau. Ce faux testament, il a contribué à donnait de lui une image erronée, de faire de lui une espèce de fantoche, de incohérent.
De quoi s'agit-il exactement? Qu'y a-t-il dans ce texte?
Alors, c'est un texte qui a été publié cinq jours après la mort de Mirbeau dans le Petit Parisien, et dans lequel le personnage qui est supposé avoir écrit ce texte dit qu'il renie quasiment tous les combats antimilitaristes, qu'il reconnaît la vertu de la patrie, etc. Et c'est écrit en un style ampoulé absolument incompatible avec celui de Mirbeau. On a un mauvais français de surcroît incompatible avec celui de Mirbeau.
Et on est en 17, on est au milieu de la Grande Guerre.
En février 1917, c'est-à-dire en pleine bataille de Verdun en plus. Et donc faire dire à Mirbeau qu'il renie un petit peu tous ses combats antimilitaristes, pacifistes des années précédentes, ça donne une bonne conscience à tous ceux qui se sont ralliés justement à la guerre, etc. Ça permet de dire, oui, même Mirbeau, il a renié tout son passé, etc.
Et ça a été un élément du purgatoire, nous dites-vous?
Je pense que ça fait partie des éléments. Mais alors d'abord, dans quelles conditions ce texte a-t-il été pondu? Effectivement, comme dans Jean Barois, la veuve de Mirbeau y est certainement pour beaucoup. C'est elle qui a pris l'initiative et qui a sollicité Gustave Hervé. Gustave Hervé, c'était un ancien leader socialiste de la gauche du Parti Socialiste, la SFIO, qui avait payé de plusieurs années de prison ses combats pacifistes. Et le jour de l'entrée en guerre, lui qui dirigeait la guerre sociale, il a modifié le titre de son journal qui a été rebaptisé La Victoire. Alors, ce testament a suscité bien sûr des remous. Tous les amis de Mirbeau ont protesté, notamment Léon Werth, Georges Besson, Francis Jourdain, Georges Pioche, etc. Mais ils n'ont pas eu accès à la presse pour pouvoir s'exprimer. Il y a eu un effort général de censure pour empêcher donc la vérité de s'exprimer. Il a fallu attendre longtemps, plus d'un demi-siècle, pour que la vérité soit enfin reconnue.
Enfin, Pierre-Michel vient.
Enfin, Pierre-Michel, à l'époque, c'était pas encore moi, mais enfin, il y avait déjà des doutes. Il a fallu apporter tous les éléments d'analyse et le texte de Léon Werth, qui n'avait pas pu publier, que j'ai retrouvé dans ses papiers, et qui analysait aussi les conditions dans lesquelles le testament a été concocté. Et le jour de l'enterrement de Mirbeau, Gustave Hervé a pris la parole et il a été hué par tous les amis de Mirbeau. Alors, Sacha Guitry a tiré de cet épisode le sujet d'une pièce qui s'appelle « Un sujet de roman ». Qui met en scène un grand écrivain, inspiré donc de Mirbeau, marié à une femme inspirée de Madame Mirbeau. Et les deux rôles devaient être interprétés par Lucien Guitry,
le père de Sacha,
et Sarah Bernard. Et Lucien Guitry et Sarah Bernard avaient créé 25 ans auparavant la tragédie prolétarienne de Mirbeau, Les Mauvais Bergers. Donc Sacha espérait reconstituer le couple mythique des deux plus grandes stars de l'époque pour créer les rôles du grand écrivain et de sa femme. Et finalement, Sarah Bernard étant morte avant, elle n'a pas pu, bien sûr, créer ce rôle. Mais par contre, Lucien Guitry a bien interprété Mirbeau.
La pièce de son fils.
Dans la pièce de son fils. Et dans ce sujet de roman, eh bien, la veuve abusive essaie de retrouver un texte de son mari pour le publier, et ne le trouvant pas, parce qu'il l'a mis à l'abri, elle est prête à faire réécrire par un nègre l'œuvre inachevée de son mari.
Eh bien, nous terminons comme nous avons commencé, c'est-à-dire sur Sacha Guitry, Pierre-Michel. Merci d'avoir contribué à éclairer la modernité d'Octave Mirbeau au cours de cette émission. Octave Mirbeau, auquel vous avez consacré un très important dictionnaire avec Yannick Lemarié, publié à l'âge d'homme en 2011, et qui a ceci de remarquable, que vous l'avez mis en ligne et que vous observez qu'il y a beaucoup de visites.
Jusqu'à présent, on a environ 720 000 visites, c'est énorme, ça veut dire que c'est un instrument de travail pour des quantités de gens, pas seulement ceux qui travaillent sur Mirbeau, mais tous ceux qui travaillent sur l'époque.
Eh bien, ces visites vont se multiplier par deux ou par trois après cette émission, je n'en doute pas. J'ai fait fond également sur un très utile numéro de la revue Europe de mars 1999, où, sous votre autorité, sont rassemblés un certain nombre de contributeurs qui évoquent la figure de Mirbeau. Vous êtes aussi le responsable de la magnifique collection des cahiers d'Octave Mirbeau. Nous en sommes au numéro 24, ouais. 2017.
Ouais.
Et vous avez bien l'intention de continuer pour le bonheur des Mirbeliens. J'aime beaucoup cet adjectif Mirbelien. Ça évoque un peu les Mirabelles. Et c'est vous qui avez inventé l'adjectif. En tout cas, ça montre bien les liens du personnage avec la nature. La semaine prochaine, nous parlerons de la météorologie, en nous demandant si c'est une science, vraiment, point d'interrogation, avec l'excellente spécialiste de ces choses, qui est Anouchka Vazak. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi l'aide de Guillaume Cotte, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec notre cher Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Stéphanie Place pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.